48 heures après l'effroyable attentat islamique contre un professeur d'histoire qui avait fait cours sur la liberté d'expression en présentant les photos des caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo, nous recevons Arnaud Archeret. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes aujourd'hui expatrié et directeur de la French Arabian Business School, Arabian Gulf University, ESSEC, Bahreïn. Précédemment, en France, vous avez dirigé les cabinets d'élus locaux et nationaux. Vous avez publié deux livres, Les territoires gagnés de la République et La femme et l'avenir du Golfe, ce que la modernité arabe dit de nous, qui paraîtra d'ailleurs dans quelques semaines. Votre première réaction à cet attentat, et puis surtout, puisque vous enseignez à des étudiants musulmans et des étudiants des pays du Golfe, quelles sont les premières réactions ?
Première analyse, bon, c'est un peu classique, hein, mais c'est d'abord un vrai choc, parce que autant vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas très facile à expliquer. En langue anglaise ou en langue arabe, c'est pas très facile à expliquer au petit matin, au petit déjeuner, à des étudiants qui sont là plutôt pour étudier, pour suivre des cours, pour visiter, que quelqu'un se réclamant de l'islam a décapité un professeur pour des caricatures. C'est pas super simple, d'autant plus que pendant mes propres cours à moi, dans le golf, j'ai un cours qui parle beaucoup des droits de l'homme et je leur montre une partie des caricatures sans que ça choque personne. Donc globalement, c'est des choses qu'ils ont eux-mêmes du mal à comprendre et que moi, pour le coup, étant de plus en plus éloigné de ce milieu français, ça me fait un petit peu mal. Voilà, première réaction, elle est là.
Arnaud Archeret, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces caricatures, elles sont comprises, elles sont acceptées par ces étudiants musulmans, ces étudiants du Golfe ?
Elles ne sont pas forcément comprises, mais elles sont acceptées. Disons que ce qui est complètement inconcevable pour les gens que je fréquente en Arabie Saoudite, au Koweït ou au Bahreïn, c'est qu'on puisse se tuer en Occident pour ce genre de choses. Réellement, hein, c'est quelque chose qui n'est même pas admissible, qui n'est pas concevable, c'est intellectuellement difficile à imaginer. Il y a eu des énormes vagues d'attentats en Arabie Saoudite, notamment début des années 2000, fin des années 90, etc. Donc tous mes étudiants qui sont des cadres, hein, qui ont entre 30 et 50 ans, se souviennent de ça. Ont vécu ça dans leur chair, ils ont vécu le 11 septembre, ils ont vécu pas mal de choses. Et pour eux, l'idée même de terrorisme est assez compliquée à imaginer. Mais imaginez qu'on aille décapiter un prof pour ce genre d'histoire, ça les dépasse complètement. Alors, ils ont forcément, les premières réactions sont un petit peu caricaturales et un peu violentes. Hein. J'ai des SMS de quelques-uns de mes étudiants qui me disent mais voilà, pourquoi vous ne tirez pas dans le tas, machin. Je dis, non, mais ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais disons que les choses sont culturellement un peu compliquées à concevoir.
Il y a quelque chose qui est à expliquer dans ces pays du Golfe, c'est la notion de laïcité. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement imprégnable, qu'on peut comprendre facilement quand on est étudiant à Bahreïn, la laïcité dans nos pays ?
Alors, le sous-titre de mon livre parle de modernité arabe, et justement parce que la laïcité, déjà, ça ne se comprend pas tellement, même ailleurs qu'en France, dans d'autres pays, c'est toujours compliqué. Alors, dans les pays arabo-musulmans, c'est encore plus compliqué. Alors, Bahreïn est très avancé par rapport à ça. La constitution de Bahreïn reconnaît la liberté de conscience, la pluralité de religion. On a une synagogue à Bahreïn. D'ailleurs, ils ont, il n'y a pas très longtemps, normalisé leur relation avec Israël. Il y a une cathédrale. Le roi a posé la première pierre de la nouvelle cathédrale. Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie vie plurireligieuse, même si c'est un pays qui est évidemment musulman. Donc déjà à la base, la pluralité religieuse, ça existe. Ensuite, il y a une vraie sécularisation ou ce que j'appelle la symbolisation de la pratique religieuse, c'est-à-dire que oui, on respecte la religion, oui, on respecte les enseignements religieux, mais en même temps on a tendance à les garder pour soi. Alors c'est pas de la laïcité, mais c'est de la, on symbolise la pratique religieuse. Il y a eu il y a 3 jours un sondage qui est paru sur tous les pays arabes et dont un qui disait est-ce que ce serait une bonne chose si la politique et la religion étaient séparées dans mon pays. Et ben dans le bloc du Golfe, on arrive quasiment à 50% des répondants qui disent oui, ce serait une bonne chose. Autrement dit, c'est une idée qui progresse. C'est pas de la laïcité à la française, par contre c'est du sécularisme, c'est une forme de modernité arabe. On garde sa religion tout en vivant de manière, tout en ne la laissant pas trop influer sur la vie quotidienne et la vie civile.
Revenons sur le problème français, puisque vous le connaissez bien, vous avez écrit des ouvrages sur ces thèmes, vous avez conseillé également au sein des cabinets sur ces thèmes, ce problème d'islamisme radical qui est vraisemblablement lié aux banlieues. Est-ce que c'est un nouveau point de fracture entre les communautés en France cette fois, vu de l'extérieur ?
Alors, vu de l'extérieur et vu de l'intérieur, parce que j'ai quand même un peu beaucoup travaillé dans des banlieues françaises en tant que chef de cabinet d'élus, directeur de cabinet d'élus, je pense que le problème est bien davantage un problème. Quand on parle de séparatisme, ça signifie que des quartiers se souhaitent à se séparer de la République et vivre dans d'autres trucs. Voilà, c'est comme ça qu'on l'imagine. Quand Emmanuel Macron parle de ça, j'imagine qu'il conçoit ça de cette façon-là. Sauf que quand on parle de séparatisme dans un quartier, c'est que la police ne peut tout simplement pas y rentrer ou pas y rentrer dans des conditions normales. C'est que les services publics ne peuvent pas y intervenir dans des conditions normales. Et ça, ce ne sont pas des religieux qui l'empêchent. Ce sont davantage de la petite délinquance, de la petite criminalité. Le problème est d'abord, et j'insiste dessus, d'abord sécuritaire. Et ensuite, une fois qu'un quartier a été condamné, entre guillemets, ou est sous surveillance d'une petite mafia locale, entre guillemets, de petits dealers, de petits délinquants, évidemment, un autre ordre social peut apparaître. Et dans ce cas-là, là, on parle de radicalisation religieuse.
Mais le premier vrai problème... Vous êtes en train de nous dire que les petits trafics qui créent des zones de non-droit, pour les appeler comme ça, c'est un terreau favorable à l'islamisme radical ?
Bah, c'est une évidence. À partir du moment où la promesse républicaine n'est plus tenue, c'est-à-dire qu'on vit plus dans une zone qui est contrôlée par des petits dealers qui sont des petites frappes, globalement. Quand on appelle la police, ils ne viennent pas. Quand les pompiers viennent, ils sont caillassés. Quand, la voiture peut se faire brûler à tout moment, etc., forcément, on cherche un autre système de valeurs. Si on est déjà musulman, mais plutôt culturel, entre guillemets, sous origine maghrébine, on a la religion de ses parents. Et comment on coupe avec la religion de ses parents en intégrant de nouvelles valeurs de plus en plus radicales et de plus en plus fondamentalistes ? C'est-à-dire qu'on repasse aux fondamentaux de l'islam, on intègre des valeurs musulmanes dans les moindres gestes de sa vie quotidienne, parce que c'est tout simplement un système de valeurs comme un autre, d'ailleurs, parce que la République n'existe plus et n'est plus un référentiel acceptable pour ces gens. Et quelque part, quand la République ne peut plus intervenir dans un quartier, il faut bien trouver un autre système. C'est horrible à dire, je ne l'explique pas. Mais à un moment, quand quelqu'un, comme on s'aperçoit qu'ils habitent tous dans les mêmes quartiers, que c'est des choses qui se passent toujours aux mêmes endroits, il faut se demander aussi pourquoi. Et le pourquoi, c'est surtout parce que la République n'a plus les moyens de rentrer dans certains quartiers.
Donc pour vous, pour régler ce problème, il faut que la République puisse rentrer dans ces quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de l'islam de France, expulser les imams qui ont des prêches radicales, c'est qu'une partie du problème. Il faut d'abord que la République puisse être présente sur toutes les parties du territoire.
Ce serait déjà la base, parce que oui, il y a sûrement des imams, il y en a, hein, qui ont des prêches radicaux, etc. Mais souvent, ils sont dans des mosquées qui sont dans ces quartiers. Donc, on ne peut pas y faire grand-chose parce que la police ne peut pas y intervenir, parce que les écoles sont parties, parce que l'éducation nationale... Et Dieu sait que là, j'ai une vraie pensée pour les profs, parce que ça ne va pas être compliqué, de revenir à l'école lundi pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé.
C'est les vacances, donc ça sera dans 15 jours.
Oui, ah bah oui, c'est vrai que c'est les vacances en France. Je suis désolé, j'y étais plus du tout.
C'est pas grave.
Mais voilà, ce genre de choses va être extrêmement compliqué à gérer. Et déjà, c'était compliqué. Oui, on me dit qu'il y a des imams qui ont des prêches radicaux. Mais où ont-ils ces prêches radicaux ? Dans des quartiers où la République n'est plus là. Un prêche radical, il faut quelqu'un pour le dire, mais il faut des gens pour l'écouter. Les gens pour l'écouter, c'est parce qu'ils n'ont personne d'autre qui leur fait une promesse autre d'un avenir meilleur. Et cette promesse, elle n'est pas là parce qu'ils sont dans des quartiers où la tranquillité publique ne règne plus. Le premier vrai problème, il est là. Alors oui, après, on va accuser, et on est très fort, c'est les pays du Golfe qui ont financé, machin. Écoutez, un imam radical ou un salafiste, il vit avec les minima sociaux, et il vit très bien avec les minima sociaux. Il n'a pas besoin de millions et de millions d'euros pour aller expliquer à son voisin de palier qu'il faut se radicaliser, etc., et que le nouveau système de valeurs est un système coranique, parce que la République est incapable de tenir sa promesse. À partir du moment où la République ne tient pas sa promesse, la nature a horreur du vide.
Est-ce qu'il y a à craindre pour... On le voit depuis quelques années, un nombre d'écoles privées musulmanes se construisent, se mettent en place sur le territoire français. Est-ce qu'il y a à craindre que dans ces collèges musulmans, on n'enseigne plus la liberté d'expression, qui fait partie pourtant du tronc commun éducation nationale et qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, même si c'est un établissement privé religieux, ou est-ce qu'il y a à craindre que ces écoles deviennent de véritables terreaux pour l'islamisme radical sous couvert d'être conventionnés avec l'État ?
J'ai un petit peu de mal avec cette histoire d'enseignement musulman privé. À partir du moment où il est conventionné par l'État, l'État est censé contrôler que le programme y est accepté. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont été conventionnés, qui ont fini par fermer parce que justement, il y avait des vraies difficultés organisationnelles. J'en parlais il y a quelques secondes avec quelqu'un d'autre. Il y avait des vraies difficultés organisationnelles qui étaient davantage pédagogiques qu'autre chose. Après, un terreau, c'est toujours compliqué, mais c'est la même chose. Si ce collège, si cette école se trouve dans un quartier où la promesse républicaine n'a pas lieu d'être et où elle n'est plus tenue, forcément, un autre système de valeurs va naître. Et ces gens-là, à la fin, deviendront radicaux et on s'étonnera de les voir devenir radicaux. Étonnons-nous d'abord de la façon dont la France ne peut plus, la République française ne peut plus, je ne pense pas qu'elle ne veuille plus, mais elle ne peut plus agir dans ces quartiers. Et c'est pas, enfin honnêtement, il n'y a pas de milice musulmane qui empêche la République de rentrer dans ces quartiers.
Une dernière question pour finir, pour les expats, hein, pour les compatriotes exilés dans les pays musulmans, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ?
Alors, si vous habitez dans le Golfe, je pense que vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et globalement, ce que je lis des musulmans qui habitent dans des pays musulmans, etc., ils ont tendance à, entre guillemets, prier pour la France. Hein. Ils ont plutôt tendance à aller vers les Français et leur dire... on est avec vous, hein. On est avec vous et j'espère que vous allez vous en sortir par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai des amis algériens, des amis mauritaniens, etc., qui m'ont, enfin, mon téléphone croule sous les messages de soutien, en disant soyez forts, vous en viendrez à bout. Des Algériens qui disent on a connu ça, allez-y, quoi. Donc, très clairement, j'ai pas l'impression qu'il y ait lieu de plus s'inquiéter que ça. Après, je suis un éternel optimiste et peut-être que je me trompe.
Merci beaucoup Arnaud Archeret. On rappelle que vous avez publié Les territoires gagnés de la République et à sortir le 7 novembre prochain La femme et l'avenir du Golfe, ce que la modernité arabe dit de nous, donc bientôt dans les librairies. Et vous êtes donc directeur de la French Arabian Business School, Arabian Gulf University, ESSEC, Bahreïn. Merci de nous avoir accordé cette interview et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.